jeunes gens s'en vont vêtus de mortes fleurs. Ils marchent dans les villes et tranchent dans les vies. Enragés de malheur, effaçant les danseurs, décimant les enfants qui chantent et qui sourient. Ils n'ont pas d'avenir entre leurs doigts crispés et ceinturent leur corps d'armure provisoire. Ils posent sur l'amour des yeux hallucinés et n'y comprennent rien.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur part, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous allons parler aujourd'hui de l'île de Mayotte. Nous allons parler de cette île parce que la violence s'y développe, que la première ministre Elisabeth Borne en visite dans l'île le 8 décembre 2023 a été reçue par des manifestations. Elle a également été interpellée par des Mahorais en colère qui ne supportent plus la violence. Mais si cette violence fait son apparition à Mayotte depuis quelques années, ce n'est pas totalement un hasard. En effet, j'ai eu la possibilité de travailler à Mayotte quelques semaines en 1991 avec le personnel de la télévision RFO. J'avais déjà remarqué le racisme de la population d'origine européenne envers les Mahorais, la présence des commandos de marine à l'entraînement et la vie précaire des habitants de la Grande Terre, mais je n'avais pas vu de violence particulière dans cette île de l'archipel des Comores. Le 3 décembre 2023, soit 30 ans après mon passage dans l'île, voici ce que j'ai pu entendre sur la chaîne privée de TF1.
L'insécurité qui ne cesse également de gangréner l'île de Mayotte, le 101e département français ne parvient pas à endiguer cette violence devenue quotidienne. Vous allez voir qu'elle est présente au sein même des établissements scolaires, sous les yeux des policiers souvent impuissants. Cette semaine, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de nouveaux renforts. Elisabeth Borne est attendue sur place vendredi prochain. François-Xavier Ménage et Olivier Cresta.
Sortie des cours, 16h30 dans ce lycée. La moitié des élèves autorisés à quitter les lieux, l'autre moitié doit patienter une demi-heure à l'intérieur de cet établissement, entouré de fils barbelés, comme dans une prison. Une sortie en deux temps, encadrés par des policiers lourdement armés.
Il faudrait pousser là tous ceux qui partent divers quartiers de Mamoudzou. Une fois que c'est libre, je peux faire partir M. Sapéré.
L'objectif est que les deux bandes rivales qui cohabitent dans ce lycée ne se croisent pas dans la rue. Des médiateurs à l'entrée des bus, pas une semaine sans que des véhicules scolaires ne soient caillassés. Fini les vitres, on a posé du plexiglas, moins dangereux en cas d'éclat. Gaëtane a 15 ans, rentrée le soir chez elle, une angoisse.
Moi, je suis la grande à la maison, il y a ma petite sœur et mes petits frères qui vont à l'école et ma mère, en fait, elle est femme seule et elle est inquiète tout le temps, elle pleure. C'est un sentiment de traumatisme sur nous maintenant. Ça... Après, on s'habitue et tout le monde se tait, c'est pour ça que ça continue.
Vous avez peur des menaces?
Oui. Voilà.
Les violences entre jeunes sont si fréquentes que la police déploie des drones afin de surveiller les rues de Mamoudzou tous les matins, tous les soirs. 17h, le deuxième groupe d'élèves sort à son tour. Une dizaine de policiers pour encadrer les lycéens. La grande majorité d'entre eux subit ces violences qui opposent le clan des Ouattoro à celui, c'est leur nom de scène, des terroristes. Parfois, les affrontements entre adolescents se transforment en terrain de guerre. Des barres de fer, des machettes. Les jeunes se savent filmés par des drones, ils sont donc cagoulés. Certains versent dans la violence extrême, parfois juste pour des questions d'honneur ou de réputation. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voler ici.
Le 8 décembre 2023, la Première ministre est interrogée sur la chaîne de télévision Mayotte La Première au sujet de la violence et de la sécurité.
Les sujets de sécurité, vous le dites, ils sont revenus tout au long de la journée. Moi, je suis très consciente qu'il y a des attentes très fortes sur ce sujet. Suite aux violences, qui, notamment avec des bandes ces dernières semaines, on a remis des moyens supplémentaires. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 6 unités de force mobile qui sont présentes à Mayotte. Et puis on maintient des moyens de police judiciaire importantes. Mais je suis consciente qu'il faut qu'on accentue encore notre action, qu'il y a une très forte attente de la population et des élus sur le sujet.
Des manifestations et des agressions encore ce matin. Madame la Première Ministre, les Mahorais vivent dans un climat de terreur. Les violences n'ont plus d'horaire. Les enfants, les familles, le monde économique s'expose tous les jours aux barrages, aux incendies, aux caillassages. Les Mahorais ont le sentiment d'être en état de guerre. Certains Mahorais commencent à s'armer pour se défendre, bien sûr. Est-ce qu'on pourra éviter une guerre civile à Mayotte?
Est-ce que Mayotte est aujourd'hui au bord d'une guerre civile? Cette perception des Mahorais interpelle, bien sûr, les pacifistes que nous sommes. Depuis plusieurs années, Mayotte s'enfonce dans la pauvreté, et pourtant elle continue à attirer des Comoriens qui viennent travailler clandestinement à Mayotte. Les Mahorais supportent mal cette immigration, et font porter, comme d'habitude, tous leurs problèmes de précarité et d'insécurité sur les Comoriens des autres îles de l'archipel. Cette immigration est pour eux la principale cause d'insécurité. Mais il y a bien sûr bien d'autres causes. Les Français ne connaissent pas bien Mayotte et les médias ne s'y intéressent que lorsque des événements graves s'y passent. Alors, pour comprendre un peu mieux la situation de Mayotte, nous allons écouter ce que nous dit le sociologue Damien Richiot, auteur d'un texte intitulé « Mayotte, de quoi la violence est-elle le nom ?» Mayotte, de quoi la violence est-elle le nom ? Damien Richiot est interrogé en avril 2023 sur Mediapart.
Mayotte, c'est une île de l'océan Indien à 8000 km de Paris. 300 000 habitants, 20 fois plus petite que la Corse. Longtemps, ce fut une colonie française. Mayotte est devenue le 101e département français en 2011, le plus pauvre de France, avec des flux migratoires importants depuis l'archipel voisin des Comores. Et à Mayotte, le gouvernement français vient d'annoncer une opération de destruction de bidonvilles qui accueille des migrants. Une opération nommée Wambushu, reprise en mahorais, qui vise aussi à expulser les Comoriens sans papier. Opération annoncée en fanfare, mais que la justice a pour l'instant stoppée. Sur l'île, la tension est maximale. On va essayer de comprendre les enjeux avec vous, Damien Richiot. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, vous avez soutenu l'an dernier, c'est très récent, une thèse de sciences politiques sur les travailleurs migrants à Mayotte. C'est pile le sujet, évidemment, de ce dont on va parler. Damien Richiot, Mayotte est partout dans les médias ces jours-ci. Parfois, on ne voit pas du tout, on ne parle pas du tout de Mayotte, et là, c'est partout. Vous qui connaissez cette île, vous y avez travaillé, et les enjeux migratoires qui la concernent, comment vous résumeriez rapidement ce à quoi on est en train d'assister à Mayotte ?
On est en train d'assister, je pense, à une nouvelle itération, finalement, d'un,
du problème mahorais, en tout cas de la question mahoraise, qui est réduit strictement à la relation entre insécurité et immigration. Et donc on est en train de mettre en lumière, de parler d'un dispositif policier, comme vous l'avez dit, et en attendant, on n'a toujours pas parlé du reste, en fait. On n'a toujours pas parlé de l'ensemble des variables, l'ensemble des contraintes qui pèsent, en fait, sur Mayotte et qui ne sont pas directement corrélées à la question de la clandestinité ou même des étrangers. Mais comme souvent, quand on parle de Mayotte, en fait, en France métropolitaine, on prend toujours ce prisme-là, cet angle-là de insécurité et immigration.
Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, il les défend clairement et mène cette opération. On l'écoute.
Nous allons détruire, sur décision de justice, ces bidonvilles et reloger les gens. La République, aujourd'hui, elle détruit des bidonvilles et elle reloge les gens dans des vrais logements.
Renvoyer notamment aux Comores ceux qui sont en situation irrégulière.
Bah, les personnes qui sont en situation irrégulière à Mayotte, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, ils méritent de retourner dans leur pays.
Damien Richaud, ces opérations qu'on appelle des opérations de décasage pour ce qui concerne les bidonvilles, dont parle aussi Gérald Darmanin, elles sont absolument pas nouvelles à Mayotte.
Oui, effectivement, on a parlé. En fait, il y a à Mayotte et aux Comores de manière générale des logiques du bannissement, c'est-à-dire, en gros, l'idée c'est de s'organiser localement pour faire en sorte qu'une population soit renvoyée chez elle, donc dans l'île d'à côté. C'est des pratiques qu'on peut observer depuis la fin des années 60, début 70, pas sous cette forme-là, bien sûr. Hein. Et depuis la départementalisation en 2011, ce qu'on appelle décasage, en fait, c'est effectivement des mobilisations villageoises qui vont détruire des habitations dans lesquelles vivent a priori des personnes étrangères, qui sont d'ailleurs pas forcément des personnes en situation irrégulière. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant sur le plan sémantique, c'est qu'on parle d'opération de décasage. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transformation entre ce qui est une pratique locale villageoise en l'institutionnalisation, finalement, par un dispositif policier, de ces pratiques qui sont en plus jugées illégales. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable. Et puis quand M. Darmanin dit qu'on va reloger les gens, concrètement, aujourd'hui, Mayotte, les populations qui vivent dans des bidonvilles à Mayotte, ça représente des dizaines de milliers de personnes. On va pas reloger, c'est pas vrai. Enfin, quand M. Darmanin dit qu'on va reloger tous ces gens, c'est complètement irréaliste. Voilà.
Ensuite, ce qu'il semble dire, c'est qu'il y a beaucoup, finalement, ce sera peut-être possible parce qu'il semble dire qu'il y a beaucoup de gens parmi eux qui sont clandestins. C'est ça qu'il semble établir.
Alors, c'est une idée qu'il faut déconstruire. Mayotte, trois quarts de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. D'accord? Donc, parmi les gens qui vivent dans les bidonvilles, il n'y a pas que des personnes en situation irrégulière. Il y a des étrangers, c'est vrai, qui sont en situation régulière, mais il y a aussi des Mahorais. Et voilà. Donc c'est pour ça que la rhétorique qui consiste à croire qu'effectivement on va appliquer en fait une méthode héritée de le droit au logement, etc., en virant des gens de chez eux et en les relogeant, c'est complètement irréaliste.
L'île de Mayotte, le 101e département français, accueille les plus grands bidonvilles de France. Leurs habitants, en grande majorité des clandestins, viennent de l'archipel voisin des Comores, à 70 km. Sur les hauteurs de Kaweni, près de 10 000 personnes survivent dans une insalubrité extrême, dans ces cases en tôle appelées Banga. Ici, pas d'eau ni électricité. Sous la tôle, il fait 40 degrés. Les enfants arpentent chaque jour les chemins boueux, remplis de déchets. L'État a lancé une opération d'expulsion massive pour lutter contre l'immigration illégale et la délinquance. Elle prévoit la destruction des bidonvilles et 10 000 expulsions en 2 mois.
La présence policière aujourd'hui à Mayotte est très forte. Il suffit de prendre une voiture ou un mototaxi pour s'en rendre compte. Et effectivement, ça attise finalement les tensions qu'il peut déjà y avoir en temps normal avec notamment les jeunes de ces quartiers qui, eux, le disent clairement finalement. Ils ne veulent pas qu'on vienne détruire leur maison, qu'on vienne chasser leurs parents de leur maison. Et donc, effectivement, ça vient encore attiser davantage la tension qu'on peut y trouver.
Damien Richaud, je vous voyais réagir à la fois sur les images et ce que disait Nejma.
Il y a quand même quelque chose dont on parle assez peu, finalement, c'est l'économie de la clandestinité. Enfin, ces gens ont installé effectivement des cabanes en tôle, mais pas nulle part. Ils ont installé des cabanes en tôle sur des terrains. Et donc, il donne un loyer. Il y a quand même un loyer qui est reversé, en fait. Et je m'étonne quand même beaucoup, si vous voulez, à chaque fois, du fait qu'on focalise énormément sur le mode d'habitat lui-même, son caractère dangereux, etc., le caractère irrégulier et illégal des personnes qui l'habitent. mais on pose assez peu la question finalement des propriétaires.
Qui sont les propriétaires ?
Les propriétaires sont des propriétaires terriens, donc maorais bien sûr, de nationalité française, qui permettent d'accéder à ces ressources, que sont la terre, que sont l'eau, l'électricité. Voilà. Aujourd'hui, des quartiers de bidonville, tels qu'ils sont organisés à Mayotte, ça implique nécessairement l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau. Généralement, c'est d'ailleurs l'accès à l'eau agricole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, on parle donc effectivement de cette population-là, mais on ne parle pas effectivement de qui est un acteur également responsable de la situation. Et les propriétaires sont partie prenante de ces activités.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Après cette chanson du musicien maoré Latéral, nous revenons au sujet de notre émission d'aujourd'hui, la violence dans l'île de Mayotte. Les médias français se font volontiers l'écho de la violence et de l'insécurité à Mayotte, qui, d'après les Maorés eux-mêmes, serait due essentiellement à l'immigration des Comoriens sur cette île. Le sociologue Damien Richiot, interrogé sur Mediapart, rétablit la vérité sur cette immigration.
Les migrants de Mayotte sur lesquels vous avez travaillé pendant des années, c'était l'objet de votre thèse, combien sont-ils, qui sont-ils et quel est leur rôle dans la société mahoraise ?
Aujourd'hui, pour schématiser, il y a deux pans entiers de l'économie mahoraise qui sont quasi exclusivement supportés par les populations étrangères, pas nécessairement clandestines d'ailleurs. C'est le domaine de la construction, le BTP, et le domaine de la production agricole. La quasi-totalité des personnes avec qui j'ai travaillé travaillaient eux-mêmes, étaient embauchées soit dans l'un, soit dans l'autre de ces domaines. Et on peut rajouter à ça des personnes qui sont salariées dans des petites boutiques, par exemple, etc. etc. Bon. Je crois que ce qu'il faut mettre en perspective, en fait, c'est le rôle, ou en tout cas la fonction, ou l'effet d'un dispositif policier qui viserait à faire disparaître littéralement ces populations de l'île pour les renvoyer chez elles.
En tout cas, c'est le discours politique tel qu'on l'entend.
Voilà. Oui, c'est sûr. Mais si M. Darmanin avait une baguette magique, s'il était capable de faire, effectivement, de transférer toutes ces populations de Mayotte vers les îles d'où elles viennent, le premier effet que ça aurait très probablement sur Mayotte demain, c'est un effondrement de l'économie. Voilà. Il faut dire les choses très, très clairement. Pour vous donner un ordre d'idée, avec la départementalisation, il y a, donc Mayotte est un département français, s'appliquent des normes, notamment en matière de construction. Donc, ces normes ont impliqué une augmentation du coût, du prix, par exemple, d'une maison. Pour Mayotte, par exemple, le prix moyen pour une maison qui a une emprise au sol de 150 mètres carrés, si vous faites ça 100% légal, ça coûte 300 000 euros. Mmh. Vous faites ça avec une équipe de maçons clandestins, ça coûte entre 30 et 40 000 euros. Mmh. Voilà. Et cette dimension-là, elle est complètement occultée, finalement, de l'opération qui est menée par M. Darmanin en ce moment.
Surtout que on est bien d'accord, Mahorais et Comoriens, on parle en grande partie du même peuple, en réalité, au-delà des questions de statut et de nationalité.
Oui, bien sûr. Ce qui est toujours étrange quand on parle de Mayotte, c'est qu'on focalise sur Mayotte. Alors que l'échelle qu'on devrait prendre pour comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement, c'est l'archipel des Comores, dans son ensemble. On a affaire effectivement à quatre îles principales.
Parce que Mayotte est devenue indépendante.
Tout à fait, en 76.
Mais appartenait à cet archipel des
Comores. Oui, tout à fait. Il y a eu un vote pour l'autodétermination en 74 trois îles sur quatre ont voté, en tout cas, à laquelle la quasi-unanimité leur propre indépendance. Et l'une de ces îles, Mayotte, a choisi de rester française, à 63%. Donc depuis, on a fabriqué une frontière d'abord qui était d'abord administrative au sein d'un archipel. Puis, en 93, on a commencé à empêcher les gens de circuler avec le visa Belladur, etc., etc. Mais effectivement, le propre d'une société archipélagique, c'est que, d'une part, elle est multiple. Mais cette multiplicité n'implique pas qu'on doive les saucissonner en petits morceaux. Et d'autre part, elle circule. Elle ne migre pas, elle circule. C'est quand même une rhétorique qui est différente, qui n'est pas entendue dans...
Mais la réalité, c'est qu'il y a un mur, c'est qu'il y a une frontière. C'est-à-dire qu'en fait, la route entre Anjouan et Mayotte, c'est aussi une route où, depuis des années, probablement des milliers et des milliers de gens qui faisaient la route sont morts.
Oui. Je suis totalement incapable de donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre de personnes qui sont décédées en mer.
Mais parce qu'ils viennent, en fait, pour resituer, les Comores, c'est 8 fois moins riche que Mayotte, qui lui-même est le département français le plus pauvre. Et du coup, il y a des mouvements pour, finalement, un meilleur futur, quoi, d'une certaine façon.
Ouais. La principale île dont provient le flux migratoire, c'est Anjouan, qui est à 70 km de Mayotte. Anjouan est probablement l'île sur laquelle la situation sociale et économique est la plus difficile de l'archipel. Et donc non, justement, il n'y a pas un mur. Il y a un océan. Ouais. Sur un océan, on circule. Ouais. On ne s'arrête pas devant un mur.
Mais il y a des frontières, en tout cas.
Et voilà. Ouais. Mais il y a une frontière qui est administrative. Il y a un dispositif technologique de radar, etc., qui a été amplifié ces dernières années, bien sûr. Mais c'est l'océan. On circule sur l'océan. Voilà.
Daniel Ricciou, la question migratoire à Mayotte, elle sature le débat public depuis probablement deux décennies au moins, peut-être même plus, vous allez me dire, mais le lien qui est souvent fait, en gros, c'est ce qu'on entend beaucoup ici dans nos différents médias par les politiques, mais qui est fait aussi par, si on en croit une bonne partie de l'opinion mahoraise, c'est le lien entre immigration et délinquance. Vous qui avez travaillé sur l'émigration, justement, est-ce que ce lien, il est établi? Est-ce qu'il est réel?
Non. Il n'est pas établi, ne serait-ce que statistiquement. Quand on compare, en fait, la population carcérale, ou qui est à Majicav, où c'est la prison de Mayotte, quand on compare, s'intéresse à la population qui est délinquante à Mayotte, on se rend compte que la proportion de personnes étrangères dans cette population est la même que dans la population totale. Donc ça veut dire que le fait d'être étranger n'implique pas d'être plus délinquant ou moins délinquant, en fait, que d'être français. Le type de délinquance et le type de violence qu'on voit à Mayotte, c'est une délinquance et une violence qui est celle d'une population dont l'âge médian est à 18 ans, dont les trois quarts de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et donc c'est une délinquance de prédation. Et en fait, cette violence, cette délinquance s'explique par la pauvreté de la population, pas par son caractère étranger.
On a entendu des déclarations du vice-président du conseil départemental de Mayotte, Salim Déré, qui a tenu des propos extrêmement violents contre les migrants, contre les jeunes. On savait pas très bien. Enfin voilà, c'est des propos donc appelant à les tuer, tout simplement. Est-ce que ça c'est représentatif du discours politique à Mayotte? Comment il faut l'interpréter? Est-ce que c'est en résonance avec ce que se pense une partie de la population?
À Mayotte, en fait, il y a une polarisation extrêmement forte sur le sujet migratoire, c'est évident. Le sujet migratoire, qui n'est pas que le sujet migratoire, qui est le sujet de la présence de populations anjouanaises et grand-comoriennes sur le territoire, est-ce que cela implique? Ça fonctionne comme un filtre interprétatif permanent. Tout passe à travers ça, Mayotte, en termes de mode de pensée. Donc effectivement, quand on entend, quand on écoute les conversations, parfois, on peut entendre
des choses comme ça.
Après, non, on ne peut pas dire que c'est représentatif du mode de pensée de l'ensemble des élus de Mayotte, heureusement.
Ouais.
Mais je pense que il est intéressant de se poser la question, quelle est la nature du climat encore aujourd'hui à Mayotte qui autorise un élu à prendre la parole avec ce type de champ lexical?
C'est quoi? C'est de l'impunité? C'est le sentiment?
Non, je pense que le rapport à la violence est une norme aussi sociale, comme n'importe laquelle. Mmh. Cette norme, en France métropolitaine, on l'a pas. La norme, le rapport à la violence normée à Mayotte est différent.
Damien Riccio, Mayotte, c'est une zone d'exception en termes de droit, comme disait Nejma?
Oui, en termes de droit et en termes de pratique aussi policière. Par exemple, le CRA de Mayotte, alors indépendamment de la mise en place de ce nouveau dispositif, il y a des délais de traitement qui sont extrêmement rapides. Alors le temps moyen, en fait, entre l'arrestation, le passage au CRA et le départ sur l'île d'Anjouan par bateau, c'est en moyenne c'est 72 heures. Il y a pas ça, c'est assez exceptionnel en France. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a des pratiques en termes de pratiques policières, des choses qui se font, qui sont assez aberrantes. Par exemple, il arrive que des enfants mineurs soient rattachés à un homme ou une femme majeure pour pouvoir être déportés à Anjouan ou à Grande-Comore. Alors que donc là, l'administration est capable de fabriquer des liens de filiation entre un enfant mineur et un homme ou une femme qu'il ne connaît pas forcément, pour pouvoir justifier sa déportation. Ça, c'est des pratiques qui existent. C'est des pratiques qui ont été documentées.
Et on a vu des tirs à balles réelles des CRS ces derniers jours vers le sol et pour faire fuir, selon des témoins, mais des tirs à balles réelles dans ce contexte-là. Un dernier mot quand même pour vous deux, peut-être. Damien Riccio, pour vous, c'est quoi les vrais enjeux pour Mayotte, sans dire que la question de, on l'a dit, la question des migrations, elle clive la société, donc c'est un enjeu dans la société, mais pour vous, c'est quoi les enjeux dont il faudrait parler aussi?
Dans un premier temps, je pense qu'il y a une reprise de ce que j'essayais d'esquisser tout à l'heure, à savoir l'échelle à partir duquel on regarde la question ou le problème. Si on continue à regarder la question à partir de Mayotte, si c'est ça l'échelle à partir duquel on regarde, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut braquer la focale sur l'ensemble de l'archipel des Comores, il faut poser la question de la coopération régionale, qui est un vieux serpent de mer à Mayotte, mais voilà. Et le fait que vous disiez tout à l'heure que les personnes qui sont envoyées par l'État français pour revenir en jouant sont bloquées par les autorités comoriennes, ça dit assez bien, je trouve, le fait que ces populations en situation irrégulière, migrantes, sont véritablement l'objet, sont un jouet, finalement, du litige diplomatique entre la France et les Comores.
Après cette musique traditionnelle de Mayotte, nous continuons à nous interroger sur la situation sociale à Mayotte en cette fin 2023. C'est Nejma, correspondante de Mediapart dans l'île, qui décrit avec réalisme la condition actuelle de la population à Mayotte. Nous l'écoutons.
Parce que je crois qu'il y a énormément d'urgence à traiter ici à Mayotte. Effectivement, le département le plus pauvre de France, on l'a documenté, nous, à Mediapart, avec Fabrice Arfi, dans un rapport qui a été caché par le gouvernement, une enquête qui a été menée par 6 ministères tout de même et qui venait pointer des dysfonctionnements, des manques gravissimes pour un territoire de la République comme celui-ci, avec énormément de pauvreté, avec une question liée au mal logement qui est cruciale aujourd'hui. C'est aussi ça qui crée des tensions entre les populations qu'on retrouve ici à Mayotte. Évidemment, l'accès à la santé, aux soins, l'accès à l'éducation, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à avoir accès à l'éducation parce que certains maires, par exemple, refusent leur inscription, n'arrivent pas à avoir des repas corrects ou des repas tout court à l'école, dans les écoles de la République française. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc voilà, il y a des enjeux absolument cruciaux, la question environnementale également, la question de l'accès à l'eau, là je vous parle, il y a des coupures dans le quartier où je suis 2 fois par semaine, de 17h à 7h du matin, et c'est absolument pas exceptionnel, c'est le cas dans beaucoup d'autres quartiers mahorais. Je pense qu'en continuant à maintenir la focale sur l'immigration et sur la délinquance pour lesquelles on fait le lien direct alors que visiblement ce n'est pas le cas. En réalité, on cherche à cacher toutes les autres problématiques qu'on retrouve ici à Mayotte. Et tant qu'on n'arrivera pas à prendre ces sujets à bras-le-corps, on continuera de laisser ces tensions prospérer entre les populations. C'est à se demander si ça n'est pas finalement volontaire de la part de l'État. Finalement, il laisse les gens se diviser au lieu de régler les problématiques, les urgences du moment.
En écoutant Nejma, correspondante de Mediapart à Mayotte, on comprend que Mayotte est l'un des départements français les plus maltraités, ce qui d'ailleurs entraîne cette violence dans la population. Mais comme le souligne le sociologue Damien Richaud, il ne faut pas regarder Mayotte seulement sous l'angle d'un département français, mais plutôt par rapport à la situation dans l'archipel des Comores. Pour cela, il faut d'ailleurs un peu remonter dans l'histoire. Et voici ce qu'écrit Damien Richaud. Dans l'histoire des Comores, 3 dates sont à retenir. 1841, 1974, 2000. En 1841, la puissance coloniale française, en concurrence avec les Britanniques dans l'océan Indien, acquiert Mayotte, dans un projet de domination qui vise avant tout Madagascar. De 1912 à 1946, Mayotte, avec les 3 autres îles des Comores, mises sous protectorat en 1886, forme une colonie dépendant de celle de Madagascar. Les familles dominantes des 2 grandes îles, la Grande Comore et Anjouan, s'imposent aux dépens des 2 plus petites, Mouélie et Mayotte, dans la vie politique de l'archipel devenu territoire autonome. Mayotte perd alors son rôle privilégié de centre administratif en 1958. En effet, la capitale a été déplacée de Mayotte à Anjouan. Et Mayotte, craignant désormais la domination des îles voisines, voit se former un mouvement qui porte la demande de départementalisation. Lors du référendum pour l'autodétermination des Comores en 1974, le gouvernement français de l'époque, malgré des oppositions contrastées, suit le décompte des voix par île. Seule Mayotte, avec 65% des voix exprimées, choisit de rester dans le giron de la France. Le territoire des Comores déclare unilatéralement son indépendance en 1975. Et depuis cette date, l'ONU et l'Union africaine jugent illégal le rattachement de Mayotte à la France et son occupation qui brise le principe d'unité territoriale de l'archipel. De son côté, la France maintient sa position au nom du droit des peuples à la libre détermination et pendant 25 ans, Mayotte garde un statut indécis de collectivité territoriale puis en 2000, Paris lance un programme d'assimilation législative préparant la départementalisation. Et cette départementalisation est programmée le 1er avril 2011 dans son livre « Mais que faire de Mayotte ?» analyse chronologique de l'affaire de Mayotte de 1841 à 2000, Philippe Boissadan pose la question : le département français est-il la meilleure solution pour l'île de Mayotte ? Philippe Boissadan a été secrétaire général de Mayotte de 1976 à 1978, donc peu après l'indépendance des Comores et le rattachement de Mayotte à la France. 10 ans plus tard, Philippe Boissadan est nommé préfet de Mayotte, de 1996 à 1998, avant la déclaration de départementalisation. Il intervient, d'ailleurs, dans le documentaire d'Anne-Charlotte Gouraud. Ce documentaire a pour titre « Mayotte, la dernière colonie » et il a été diffusé sur Arte en 2017. Philippe Boissadan déclare qu'il fallait pour Mayotte des solutions complexes, adaptées et progressives, alors que le gouvernement français a fait tout le contraire en acceptant la départementalisation. Je me suis entretenu au téléphone avec Philippe Boissadan en décembre 2023. Et voici quelques extraits de notre échange.
Donc la départementalisation a été une erreur. C'est Sarkozy qui était candidat à la présidence de la République et qui voulait avoir les voix mahoraises parce que on lui avait dit que sa réélection, et on avait raison de lui dire que sa réélection serait très très rigoureuse et qu'il aurait besoin de toutes les voix. Donc il a lancé cette départementalisation. C'est une absurdité. Et enfin, une autre raison qui est évidente, c'est que nous, Français, nous n'avons pas les moyens de départementaliser Mayotte. Nous n'avons pas les moyens. Le rêve des Mahorais, c'est d'une part, effectivement, d'avoir un ancrage français tel que la menace de revenir aux Comores disparaisse et que, d'autre part, leur niveau de vie s'accroisse pour ressembler à celui de la Réunion. Or, il faut bien se rappeler, vous qui connaissez les dom-tom, que la Réunion, qui est effectivement, selon moi, une réussite sur le plan des territoires d'outre-mer français, la Réunion, on a mis près d'un siècle pour arriver là où elle en est. Et donc, nous n'avons toujours pas les moyens de départementaliser Mayotte. Voilà ma position, c'est ça. Il fallait laisser à Mayotte le statut de collectivité, un statut suffisamment souple pour avoir à ne pas y appliquer toutes les dispositions métropolitaines. Malheureusement, je considère que on est prisonnier de ce statut départemental, que les réclamations des Mahorais ne feront qu'empirer, dans la mesure où la moitié de la population a au-dessous de 20 ans maintenant, et donc n'a pas connu les périodes héroïques de l'indépendance des Comores, etc. Ou, malheureusement aussi, et ça j'ai pu le constater de 76 à 96, l'islam mahorais, qui était un islam bon enfant, bon, par exemple là, le voile des mahorais, c'est un voile plutôt de fantaisie qu'un voile religieux. Eh bien, l'islam est en train de se radicaliser à Mayotte de plus en plus. Et voilà, donc toutes ces évolutions sont des évolutions qui peut-être étaient inéluctables, c'est vrai, mais qui auraient pu être amoindries, assouplies et gérées plus intelligemment dans un cadre autre que celui de département. We'll be right back.
Chali na ikatwe, saluva na ifungwe, sapati na ipilwe. Hallo, 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 hallo. Tchubus. On nous a dit, hey, si vous voulez le département, faudrait d'abord accepter nos lois. Si tu veux danser le chicoman, détends tes papiers, on te demandera. Hey. Une autorisation dans l'immédiat. Tchoubes. Allô, 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 allô. Ishali na ikatwe, saluva na ifungwe, sapate na itilwe. Allô, 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 allô. Tchoubes.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis-Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors après cette chanson du musicien maoré Latéral, chanson sur la départementalisation qui a transformé Mayotte, nous reprenons notre communication téléphonique avec l'ancien préfet de Mayotte, Philippe Boissadan. Philippe Boissadan était à Mayotte de 1996 à 1998, donc ça fait plus de 20 ans, et il a très vite compris ce qu'il fallait faire à Mayotte pour améliorer les conditions de vie des Mahorais. Il évoque un problème qui est devenu aujourd'hui un problème catastrophique, le problème de l'eau.
J'ai eu à faire face, effectivement, entre autres, en 1997, c'est en 1997, qu'il y a eu une très forte sécheresse, et où il y a eu de très grosses pénuries d'eau. Il fallait faire quelque chose. Une première retenue collinaire avait été créée par mon prédécesseur. Une deuxième retenue collinaire était en train de se faire. Il fallait, première chose, faire accélérer la mise en place de cette retenue collinaire. Donc il a fallu que je fasse pression sur la Colas, qui était l'entreprise créatrice de la retenue collinaire, pour qu'elle fasse FISA avant la saison des pluies. La saison des pluies à Mayotte, c'est novembre, décembre, janvier. Donc il fallait que la Colas se dépêche de venir terminer la retenue collinaire alors qu'elle traînait. Donc j'ai fait pression fortement, en envoyant des ultimatums, en bloquant les factures, en disant je les débloquerai que lorsque vous viendrez. Ils ont été obligés de fermer un chantier, je sais plus où, au Moyen-Orient, pour venir à Mayotte. On a donc ouvert la deuxième retenue collinaire. Ça suffisait pas. Il fallait faire autre chose. J'ai donc créé, avec Vinci, j'ai donc créé la l'unité de dessalement Petite Terre. Alors, c'est pas très facile parce que il fallait trouver un terrain et il fallait faire venir tout le matériel, les ingénieurs, etc. On a créé l'unité de dessalement en 6 mois. En 6 mois. Bon, après est arrivé le moment où donc on a dans une certaine mesure pallié la pénurie d'eau. On l'a pas totalement terminé, comme je vous dirai après, je ne pense pas qu'on puisse tout de suite, pas avant un délai de 5, 6, 7, 8 ans, régler le problème de l'eau, dans la mesure où il y a une progression démographique liée à l'immigration clandestine considérable. Et quand je suis parti en 98, j'avais laissé un plan qu'il aurait fallu mettre en œuvre. Alors je le dis très clairement, je le dis avec gêne parce que j'ai l'air de mettre en cause mes successeurs, mais je suis obligé de le dire. Il y avait un plan qui était très précis. Ce plan, c'était on crée une troisième retenue collinaire. Et j'avais commencé à faire des investigations de terrain. On me dit maintenant que la troisième retenue collinaire est freinée parce que les propriétaires de terrain ne veulent pas laisser. Or, on a des moyens juridiques au nom de l'intérêt public, on a des moyens juridiques et des pressions politiques possibles pour faire taire les propriétaires en question. Donc, il fallait créer une troisième retenue collinaire. Il fallait créer une deuxième unité de dessalement, troisième unité de dessalement. Tout cela a été prévu. Depuis 98 jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. Si bien que la situation actuelle de l'eau, la pénurie d'eau que vivent les Mahorais, et c'est catastrophique, hein, sur le plan sanitaire, sur le plan humain, sur le plan de l'environnement, parce que on distribue des bouteilles d'eau en plastique. Alors, les bouteilles, une fois qu'elles sont utilisées, eh bien, elles sont jetées partout, n'importe comment. Et donc, c'est une véritable catastrophe. Déjà, Mayotte est sale. Alors là, ça doit être abominable. Si on avait fait ce que j'avais préconisé, la situation actuelle, je me répète, on n'aurait pas pu la régler totalement, parce que la sécheresse que subit Mayotte à l'heure actuelle est vraiment très très sévère. Il n'a pas plu depuis très longtemps, et puis là, ça n'a pas l'air de démarrer non plus. Or, on est au mois de décembre, donc la situation est quand même catastrophique. Mais on aurait pu la moindrir. Cette pénurie. Certainement, on aurait pu la moindrir. Quand on aurait maintenant une troisième retenue collinaire, une troisième unité de dessalement, et avec un projet de quatrième retenue collinaire, eh bien, la pénurie d'eau serait partiellement palliée.
La crise de l'eau, parlons-en, Madame la Première Ministre. Mayotte a soif. L'État a pris des mesures d'importants investissements annoncés. Une deuxième usine de dessalement, vous avez été, d'ailleurs on voit sur les images, vous avez été sur un point de distribution d'eau à la population. Tous les investissements annoncés pour l'instant par l'État sont annoncés pour 2025. Ça paraît loin. D'ici là, est-ce que les Mahorais vont devoir composer avec 2 jours d'eau par semaine, voire moins, suivant la saison des pluies?
Alors, vous savez qu'on a pris des mesures à différents horizons. D'abord, des mesures d'urgence. C'est notamment la distribution des bouteilles d'eau que vous mentionnez. Ensuite, on a déjà renforcer les capacités de production d'eau potable, l'usine où j'étais ce matin. L'État a investi pour permettre son extension et on a augmenté de 50% la capacité de production de cette usine. Et puis dès début 2025, on veut avoir une nouvelle usine de dessalement de l'eau de mer et on veut avoir une troisième retenue collinéaire pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de Mayotte. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de répondre à l'urgence et de faire tout ce qu'on peut et tout ce qui permettra de ne pas se retrouver à l'avenir dans de telles situations.
Mais en 2024, l'eau ne coulera pas tous les jours au robinet à Mayotte.
Vous savez qu'on arrive dans la saison des pluies, donc la situation va s'améliorer certainement dans les prochaines semaines. L'objectif, c'est qu'on ne revive pas, que les Mahorais ne revivent pas une crise comme celle qu'on a connue cette année.
Le 8 décembre 2023, lors de sa visite à Mayotte, la première ministre Elisabeth Borne a encore promis des améliorations dans la distribution de l'eau à Mayotte. Comme nous l'a dit l'ancien préfet Philippe Boissadan, rien n'a été fait pour garantir l'eau aux Mahorais depuis bientôt 30 ans. Espérons que les promesses gouvernementales seront tenues cette fois. Et Philippe Boissadan évoque maintenant un autre problème important pour Mayotte.
Alors un autre problème aussi que j'avais soulevé en 96, pas en 76 parce que c'était pas l'ordre du jour en 76, mais en 96, c'est le problème de la langue. Vous avez la moitié de la population mahoraise qui parle pas français, et quand ils rentrent chez eux, ils parlent en... Alors il y a deux langues, il y a le mahorais, et puis une langue qui est issue des malgaches. Et alors c'est le chimahorais, le chibouchi, qui sont les langues qui prévalent à Mayotte. Moi j'avais suggéré que l'on fasse, alors c'est peut-être mon passé sénégalais qui m'y a incité, je vais vous dire pourquoi, que l'on fasse, parce que le chibouchi et le chimahorais, alors chimahorais est une langue qui est issue de la langue bantoue de l'Afrique équatoriale, c'est une langue essentiellement orale. Et donc j'avais suggéré que l'on transpose cette langue sous une forme de grammaire, de syntaxe, qu'on crée une morphologie chimahorais et qu'on alphabétise les jeunes mahorais en chimahorais et en chibouchi. Et on aura appris le français après avec des méthodes de français langue étrangère. Pourquoi je vous parle du Sénégal? C'est parce qu'au Sénégal, des initiatives ont été prises à la fois par les pères missionnaires et à la fois par un instituteur laïque qui a transmis le sérère, je crois, c'est le sérère et le wolof, avec une syntaxe. Et ça a donné des résultats extraordinaires, comme par exemple Léopold Senghor, qui a été alphabétisé comme cela. Ça n'a pas empêché d'être agrégé de grammaire après. Voilà, donc tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes qu'on aurait dû prendre à cœur, plutôt que de se lancer dans une départementalisation avec toute la lourdeur administrative. Moi, j'avais demandé qu'à chaque fois qu'on nommait un prof à Mayotte, on lui fasse passer un entretien de sélection. Et entre autres, celui que vient de dire, est-ce que vous connaissez le français langue étrangère? Alors, c'est parce que, d'abord, il y a des formations en France de français langue étrangère, et deux, j'avais du reste en 76 déjà réuni toute la documentation. Il y a une documentation extrêmement riche dans ce domaine-là. Et si on ne veut pas s'initier au français langue étrangère, c'est qu'on ne le veut pas. Mais c'est une maladie que nous avons, nous Français, que nous avons toujours eu dans nos territoires d'outre-mer. Il y a une méconnaissance totale alors qu'elle existe de la culture mahoraise. Elle existe, la culture mahoraise. Lorsque nous sommes arrivés en 76 et 78, là, avec Koussirou, d'abord nous étions pas nombreux, et nous nous étions dit, et on tenait le même langage, Koussirou et moi, lui parce qu'il avait une expérience africaine, il avait fait l'Écosse, la France d'outre-mer, donc il avait fait les langues orientales, donc il savait de quoi il parlait. On s'était dit, on va essayer de mettre en place un mouvement de développement qui soit tel que l'on recommencera pas les erreurs que nous avons faites ailleurs dans nos différentes colonies. Alors lui, il avait l'expérience du Niger, moi je connaissais un peu le Sénégal, et on savait pertinemment quelles sont les erreurs du colonialisme. Alors il y a un autre point, par exemple, que je n'ai pas évoqué, mais auquel je tenais quand j'étais à la fois en 76 et en 96, c'est la place de la religion musulmane, la religion islamique. Moi j'avais dit, il faut constater, et c'est un fait, on approuve ou on n'approuve pas, on trouve ça bien ou on trouve pas ça bien, chacun réagit comme il l'entend en fonction de ses options intellectuelles, morales, religieuses, etc., ou l'absence de religion. C'est un fait, la société mahoraise est musulmane à 95%. Alors, je disais, plutôt que de laisser se développer cette religion comme elle est du reste en train de se faire maintenant, intégrons-la dans le développement de Mayotte. Et j'avais notamment proposé, il y avait une justice qui était une justice qui valait, qui ne correspondait pas aux grands principes occidentaux et français, mais qui était une justice pragmatique, qui était une justice cadiale, aux mains des cadis. Et moi j'avais dit deux choses. J'avais dit un, enseignons, intégrons l'enseignement de l'islam dans l'école publique. C'est pour éviter par exemple quelque chose de très très concret. Vous avez des enfants à Mayotte, mais je crois que c'est malheureusement toujours le cas à l'heure actuelle, qui rentrent à l'école mahoraise, l'école publique, le matin, mettons à 8h, je crois qu'en réalité c'est plus tôt, à 8h, mais qui avant se sont levés à 4h ou 5h du matin pour, d'une part, participer au déjeuner le matin, et deux, aller à l'école coranique, on leur fait annonner d'une manière complètement idiote le Coran. Il n'y a pas plus couillon qu'une école coranique. Il n'y a pas plus couillon où on leur fait réciter les sourates en leur demandant de les apprendre par cœur. Enfin, c'est absurde. Mais ils sont obligés d'y aller. Alors, moi je disais, essayons de faire un enseignement qui soit un enseignement de l'islam, puisque c'est la religion majoritaire, et on pourrait du reste à cette occasion enseigner les principes d'autres religions, mais intégrons-les dans le circuit public. Alors là, j'ai eu l'opposition des chers enseignants. Ils ont voulu être français, donc il faut qu'ils soient laïcs.
L'ancien préfet de Mayotte, Philippe Boissadan, nous a parlé des propositions qu'il avait faites il y a bientôt 30 ans et qui n'ont jamais été réalisées. Philippe Boissadan a écrit en 2000 un livre intitulé « Mais que faire de Mayotte ?» Analyse chronologique de l'affaire de Mayotte de 1841 à l'an 2000. Un livre que l'on trouve d'ailleurs encore en librairie. Dans ce livre, il critique plusieurs aspects de la politique française menée à Mayotte. Philippe Boissadan est aujourd'hui à la retraite. Alors je lui ai demandé s'il aurait pu écrire ce livre lorsqu'il était encore en fonction.
En activité, je devais m'imposer le devoir de réserve. Donc je n'aurais pas pu, parce que dans ce bouquin, Je critique un certain nombre de choses. Je mets en lumière les incohérences, les contradictions, les fluctuations politiques, etc. les bêtises de certains politiques. Il y en a une, par exemple, que je cite, qui avait fait beaucoup rigoler à Mayotte. C'est quand Chirac était venu comme premier ministre à Mayotte. Il avait fait un grand discours et il avait dit « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ». Or, il n'y a jamais eu de charrue à Mayotte, il n'y a jamais eu de bœufs. Ça veut dire que, un, il ne s'est pas rendu compte lui-même de sa bêtise, et que, deux, dans son entourage, ceux qui lui ont rédigé son discours n'ont même pas pensé à ça. La charrue avant les bœufs, ils ont quand même trouvé une traduction à la mahoraise, mais c'était tous ceux qui connaissaient bien le français ont tous rigolé. Alors ça a été une accumulation d'erreurs Mayotte et on a jamais pris au sérieux Mayotte. On n'a jamais pris au sérieux. Alors maintenant tout le monde s'y intéresse. Pourquoi? Parce que alors. Bon, il y a un tas de gens qui y vont avec des idées a priori. Mon bouquin, la tonalité générale du bouquin qui va à l'encontre de la départementalisation ne correspond pas à l'opinion profonde des Mahorais. Ils sont contents d'être départementalisés.
Ni rila we octobre 86, Jacques Chirac est le premier chef de gouvernement à fouler le sol de Mayotte. Un déplacement hautement symbolique. Pour les Mahorais, c'est la reconnaissance devant le monde entier de l'ancrage de leur île à la France et le début d'une longue histoire d'amour avec la droite française. Mais le Premier ministre est aussi là pour mettre en garde contre une départementalisation trop hâtive.
Il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Je suis persuadé que cette formule est vraie, en toutes circonstances, et pour vous aussi.
Novembre 1994, la collectivité territoriale de Mayotte reçoit Édouard Balladur. Il vient annoncer un référendum sur la départementalisation.
L'ancrage de Mayotte dans la République est un objectif qui nous rassemble.
Il annoncera surtout l'instauration du très contesté visa Balladur pour les Comoriens. 2001, Lionel Jospin est le premier chef de gouvernement de gauche à s'aventurer à Mayotte, bastion de la droite. Younoussa Bamana ironise.
Chacun sait que ce n'est pas souvent que nous recevons un chef de gouvernement de gauche.
Avec les visites viennent les promesses. Lionel Jospin promet le rattrapage social. Cinq ans plus tard, Dominique de Villepin annonce la construction d'un second hôpital. En 2009, ce sera François Fillon. Il vient rassurer les Mahorais sur la départementalisation prévue pour 2011. Il annonce surtout un plan de relance pour les écoles. Quatre ans après la départementalisation, Mayotte accuse encore un énorme retard. Manuel Valls arrive avec un contrat plan État-région de 378 millions d'euros à Mayotte. Depuis cette visite, plus aucun Premier ministre ne s'est risqué en territoire mahorais. Elisabeth Borne devra affronter des années de frustration accumulée.
Les Mahorais ont le sentiment de subir, de passer au second plan, de partager les ressources limitées en termes de logement, en termes d'éducation. La pression migratoire est importante. Est-ce que vous comprenez ce sentiment qu'ils ont de ne pas être une priorité pour la République française ?
Vous savez, si je suis là, c'est pour dire aux Mahorais qu'ils sont une priorité pour mon gouvernement et donc pour la République française. On doit intervenir sur tous les plans qu'on a mentionnés. On doit évidemment être encore plus efficace dans la lutte contre l'immigration illégale. On aura reconduit 22 000 personnes cette année et il faut absolument qu'on renforce les moyens. Ça sera l'objet du plan Chicandra 2 et je peux vous assurer que toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, j'ai été très mobilisé avec mon équipe, avec le ministre délégué aux Outre-mer sur la question de l'eau. Donc il y a de nombreux sujets à Mayotte, on va les prendre un par un et on veut apporter des réponses aux habitants.
Madame la Première Ministre, vous êtes arrivée donc dans le 101e département, le dernier département de France. La France, une puissance mondiale reconnue. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de visiter un territoire du tiers-monde aujourd'hui ?
Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Je vois un territoire qui a à la fois des défis très importants. Quand je visite ce matin le bidonville, je pense que ça n'est pas normal, que ça n'est pas digne de notre pays et qu'il faut agir pour résorber cet habitat illégal. Mais c'est en même temps un territoire qui a des atouts formidables, qui est en plus dans un endroit stratégique au plan mondial et qui a des énormes atouts. Donc je suis vraiment convaincu qu'ensemble, avec le soutien du gouvernement, le soutien de l'État, on va pouvoir donner des perspectives aux habitants de Mayotte pour développer notamment leur économie.
Vous quittez, dernière question Madame la Première Ministre, vous quittez le département ce soir, avec quel message vous voulez donner ce soir aux Mahorais ? Qu'est-ce que vous repartez, comment ce soir ?
Je peux leur dire que j'ai été toute la journée à l'écoute de leurs préoccupations, que je mesure vraiment les difficultés que peuvent vivre les habitants du territoire, que ce soit sur cette question de l'eau, que ce soit sur ces questions d'immigration illégale, de sécurité, et qu'avec mon gouvernement, tout mon gouvernement, on sera mobilisé pour apporter des réponses rapides.
Plusieurs premiers ministres français se sont rendus à Mayotte et ont fait des promesses qui ont rarement été réalisées. Les Mahorais se sentent abandonnés par le pouvoir central. Il faut dire que pour la France, Mayotte reste un fardeau, et que le gouvernement ne réussit pas à résoudre tous les problèmes qui se posent dans cette île. Je vous disais en début d'émission que j'ai eu l'occasion de me rendre à Mayotte en 1991, cela fait donc plus de 30 ans. Quand j'ai visionné l'excellent documentaire d'Anne-Charlotte Gouraud qui a pour titre « Mayotte, la dernière colonie », documentaire qui a été diffusé sur Arte en 2017, j'ai été impressionné par la dégradation de la situation dans ce territoire français. Le sociologue Damien Richiot conclut son texte intitulé « Mayotte, de quoi la violence est-elle le nom ?» avec une remarque qui est toujours d'actualité. Il écrit « Autant de bonnes intentions très peu suivies des faits et qui témoignent d'une faillite des modes de gouvernance post-coloniaux incarnés par un État périphérique et d'une non-maîtrise des enjeux démographiques, sociologiques et géopolitiques afférents. De même, il est difficile de ne pas faire le lien entre cette gouvernance qui induit la situation de sous-développement, observée aujourd'hui à Mayotte, et la trajectoire des quatre dômes historiques, c'est-à-dire la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, qui eux aussi ont attendu plus de 50 ans pour parvenir à une égalité sociale avec les autres départements français. Ils ont obtenu une loi sur l'égalité réelle en 2016, soit 70 ans après la loi sur la départementalisation. Département à part, davantage que département à part entière, c'est la formule visionnaire et désormais célèbre de Césaire, et cette formule s'applique à point nommé pour le dernier né des départements d'outre-mer. Nous arrivons au terme de cette émission et je remercie donc toutes les personnes qui se sont exprimées sur Mayotte. Je recommande bien sûr le livre de Philippe Boissadan intitulé « Mais que faire de Mayotte ?» Analyse chronologique de l'affaire de Mayotte, 1841-2000. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Little Brot. Moja,
stop à la violence, team, parcours personnalisé.
Wakat, wabai, Ertsaha, Joshan, Rlawe sur la route, Torifanye, Sipai. Mama konambia tisilawe parem Be pareno devlio wanzani shetwan Rahika paren mafikira ya chan
Narifikiri wasi wanata Wasi deri tofanyo tareke vamosha Narifikiri ya maisha yatu Wasi deri toma ya leu na mesu
Kalerire make up saufana Nilawe paren nidunge mwanzani Rafanye achal
Shalari kaljan nufanira washash Fikiri wanyatu wasalia baliwa Wasalia wankonyo Rengala pia sim sababu ya wasi Narifishi mkondro ifuru ngale mesha ya tuifu
Narifishi mkondro ifuru
Narina hana amba dunia ni van Wasi pia wasi wananya Aman ivo, basi ivo
Chongo kasikiri, shiso imenye Ata serikali kawa shindo fanya hazi Ata mana kakuta mwisha enra Arima wari faranta, matori buwa Ta utele kasi unuko usikoma
Naririshe
pain noir, du pain de seigle, pour seulement subsister. Du pain blanc, du pain de fesse, pour seulement s'empiffrer. Du beau pain parasol, à Cannes, à Saint-Tropez, ou un sale entresol, une HLM mitée. Et puis des jeux de haute antiquité. Un tigre, un lion, les deux, et le dompteur bouffé. Et puis des jeux anciens ou surannés. Une marelle ou deux, une partie carrée. Un petit blanc sur le rade, ou un veau romanais. Un steak frites et salade, ou des truffes cendrées. Les enfants, la belle-mère, un patron à tuer. Sa moitié adultère, avec d'autres moitiés. Et puis des jeux d'Olympique portés. Des points qui cognent des yeux, saignant sous les huées. Puis des jeux, une place payée. Et on fait la queue, pour seulement oublier. Pour oublier la fille qu'on achète et qui geint. Les cannes et les béquilles, et tous les maux de rein. L'autobus et la vie qu'on rate à l'unisson. Les avis, les devis, et les contraventions. Il faut des jeux de meurtre et de violence. Un petit James Bond ou deux, un King Kong de jouvence. Il faut des jeux encore en drogue de silence. Sa potion de Belphégor, son comprimé de suspense. Pour enfin trouver celle qui ne viendra jamais. Cette blanche hirondelle éclose au mois de mai. Cet amour dont on rêve quand on est écolier. Cet amour dont on crève quand on est parolier. Il faut des jeux de cœur et de pensée. Une symphonie ou deux, une valse à danser. Il faut des jeux de larmes et d'amitié. Allez viens chef, moi je ne te laisserai pas tomber. Moi qui attends encore votre morceau de pain. Et vous, dans ce décor qui reviendrait demain. Nous l'avons notre dû, il est là sous nos yeux. Notre paradis perdu, c'est du pain et des jeux.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout. Que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter. Que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau.
c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
Cheval dans le mauvais temps, qui avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, me donnait les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni devant,
Jeanne d'Arc était une bonne grosse fille qui avait l'idéal, c'est certain, mais qui n'avait pas l'esprit de famille, qui a laissé ses vieux dans le train. On a dit qu'elle était mystique. Et... D'accord. Mais ça explique pas tout. Elle était anti-britannique. Moi, je dis raciste. À poisse tout. Faut apprendre ça dans les collèges. Tout ce qu'on fait ces zigotos-là, moi, je suis loin, perdu dans les neiges. De toute façon, j'y croyais pas. Je faisais juste semblant d'y croire. Comme l'autre avec sa poule au pot. Qu'il fallait à manger sans boire. Celui-là, d'ailleurs, n'a pas eu de peau. Il s'est fait percer la bedaine par un orafe dans un taxi. Comme quoi, tous les rois ont pas de veine. Et c'est historique, qu'est-ce que je dis. Même que l'assassin, pauvre bonhomme, en a fait quatre petits bouts. Au lieu de gagner à forte somme, il n'y a rien à apporter du tout. C'est comme une histoire à Robespierre. Un bonhomme que j'ai pas connu. J'irais pas jeter la pierre, mais je tiens pas mon chapeau non plus. Pareil qu'on le craignait comme la foudre. Ça tient pas debout. Sans critiquer. Un monsieur qui se mettait de la poudre. C'est pas de l'histoire, c'est du chiquet. On a dit la révolution. C'est entendu, je vous écoute. Il y avait des bonnes résolutions. C'est le populon qui a fait fausse route. Le peuple est jamais content. Ce qu'il veut, c'est tirer sa flemme. Voyez donc. La guerre de 100 ans, cette guerre, on l'aurait fait nous-mêmes. 15 jours, 3 semaines, c'était fini. Bon, plus d'anglais que de beurre, je pense. Mais l'alcool n'était pas fourni. Et c'est ça qui nous coule en France. C'est que le populaire est poivreau. Sans rouquin, plus de patriotisme. Les derniers jours du fort de Vaux, sans le pinard, c'était du lyrisme. Et je peux vous dire comme ça pendant des semaines et davantage. Napoléon, des gars comme ça, je n'ai pas connu lui, dommage. J'y aurais dit, mon bon monsieur, on m'a dit que vous étiez corse. Or, c'est seul patelin sous les cieux et un patelin vers la force. Et vous bossez 20 heures par jour. Qu'est-ce qu'il aurait pu répliquer? Ça prouve bien ce que j'en répète toujours. L'histoire de France, c'est du chiquet. Vous me direz, a eu Charlemagne. C'est exact. Mais ça prouve rien. Il a laissé en pleine campagne son neveu mourir comme un chien. Un pauvre gars qui joue la trompette, que je n'étais à se mettre à genoux. On peut prendre la série complète si tout, des maniaques ou des fous. Un jour sur deux, ça fait la guerre, tout comme de juste avec nos sous. Heureusement qu'on en a peu guère. Il nous aurait dépensé tout. Petit à petit, jusqu'au dernier, même plus un rond pour aller boire. Tant pis si c'est dur à gagner. C'est pas du chiquet, c'est l'histoire.
Que ces nuits soient les tiennes. Qu'il te demande le pire, qu'il t'oblige à sourire, qu'il te retourne sans plaisir, qu'il n'ait plus de désir, qu'il te regarde et qu'il ait peur, qu'il te laisse un jour en pleurs, qu'il se détourne, un homme, une femme. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Attends qu'il t'attrape, qu'il te pousse, qu'il te frappe, qu'il te renvoie d'où tu viens, par le premier train, le plus rapide, le ta tête dans tes mains, qu'il te condamne à vivre encore avec sa marque sur le corps, qu'il t'abandonne, un homme, une femme, un homme, une femme.
Radio Libertaire 89.5